Studio Tamani, voici les informations en français.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Studio Tamani. Voici les titres à la une de ce mardi 1er avril 2025. Reprise des activités après la fête. Plusieurs services publics ont repris le travail ce mardi, contrairement aux années passées, mais de nombreux commerces sont restés fermés aujourd'hui dans certains marchés à Bamako. La coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve s'inquiète des menaces sur ce cours d'eau. L'agence du bassin du fleuve Niger est consciente de la situation. Elle s'est dit confrontée à des difficultés financières pour lutter contre la pollution de ce fleuve. Cannes des moins de 17 ans, Maroc 2025, le Mali débute la compétition aujourd'hui contre l'Angola. À la faveur de ce tournoi, nous nous intéressons à l'aubaine qu'est devenue cette Cannes pour les jeunes talents. À la présentation, je suis Adam Amadou Haïdara, Seydou Daou est à la technique. Au troisième jour de la fête de Ramadan, les activités tournaient au ralenti à Bamako, la circulation fluide. Au grand marché de Bamako, plusieurs commerces étaient fermés ce mardi matin. Pourtant, le travail avait repris au niveau de plusieurs services publics. Cela contrairement aux années passées où on pouvait constater de nombreuses absences dans ces structures. Notre reporter Sali Sissoko a fait le tour de certains services et marchés de Bamako, suivant son reportage.
Toi, tu es venu tôt ce matin?
Ah oui, je vais vous coucher la
tête. Il est 10h dans les locaux de l'agence d'énergie du Mali SA au quartier du fleuve, en commune 3 de Bamako. Certains travailleurs sont déjà sur place et d'autres sont sur le terrain. Nous confie Ibrahima Sako, chef du département de maintenance. Même constat à la mairie de Badjana 1 dans la même commune.
Nos équipes sont en permanence sur place. Donc ils sont venus en grand nombre. Tous les chefs de service sont là et même les agents.
Personne ne manque à l'appel. Ce sont là des documents que doivent signer les maires.
À quelques engablures de là, au grand marché de Bamako, l'ambiance est calme, les clients se font rares et plusieurs boutiques n'ont pas ouvert, déplore cette cliente, Amleta Traori.
Je viens de Garantikibougou pour faire des achats dans cette boutique de luxe beauté. Le lieu n'est pas encore ouvert, sûrement pour raison de fête. Je vais voir ailleurs en espérant avoir des produits de qualité.
Il est de coutume au Mali que les travailleurs soient absents à leur poste les lendemains de fête, même s'ils ne sont pas officiellement chômés. Une attitude qui peut être sanctionnée selon le code du travail. Noude Hawi Maïga, inspectrice de travail.
Les gens doivent reprendre le travail le mardi à 7h30, tu ne viens pas. L'employeur a tout à fait le droit d'être sanctionné. Maintenant, ça dépend de son appréciation à lui. Il peut te donner un avertissement, il peut te donner une mise à pied. Il y en a même qui peuvent te licencier. Je ne peux pas dire par rapport aux fonctionnaires.
Il faut rappeler que plusieurs travailleurs partent fêter dans leur village. Ceux-ci mettent souvent du temps avant de revenir à leur lieu de service.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. À la faveur de la Journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars dernier, la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger dit son inquiétude face aux menaces qui pèsent sur ce cours d'eau. Selon elle, le cours d'eau fait face à des défis multiples tels que le changement climatique, la pollution par la jacinthe d'eau, la fougère, entre autres. Selon les responsables de l'Agence du bassin du fleuve Niger, des actions sont en cours pour réduire les conséquences environnementales de la pollution du fleuve. Niger. Ali Sissi.
Sidi Ba est le président de la Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger. Pour lui, la question environnementale ne figure pas parmi les priorités au Mali. Toutefois, il affirme que des actions, bien que timides, sont en cours pour diminuer cette pollution.
Les défis auxquels font face le fleuve Niger sont énormes. Les hautes autorités en ont conscience. Maintenant, c'est peut-être le contexte global du pays qui fait que la question environnementale n'est pas encore au premier plan. Il y a des tentatives de réduction de cette prolifération de la jacinthe d'eau. Mais c'est des actions qui sont très timides et puis qui méritent une stratégie beaucoup plus structurée et cohérente.
Ces inquiétudes sont confirmées par Moussa Djamoui, adjoint au directeur général de l'agence du bassin du fleuve Niger. Selon lui, le fleuve se trouve dans un état désagréable.
Le fleuve est dans un état peu enviable. Un des indicateurs de cette situation de pollution du fleuve, c'est la prolifération des plantes aquatiques nuisibles à Bamako, par endroits au niveau de certains établissements, vous verrez à ce niveau une prolifération de plantes aquatiques. Est-ce que ça veut dire que ces établissements établissements-là rejettent directement dans le milieu leur eau usée. Je n'en sais pas trop, mais si c'est le cas, c'est une entorse à la loi.
Malgré de maigres moyens financiers, les responsables de l'agence du bassin du fleuve Niger disent mettre au cœur de leurs actions des stratégies d'atténuation de la pollution de ce cours d'eau.
Le Mali fait son entrée en lice ce soir à la phase finale de la CAN des moins de 17 ans au Maroc. Les Aigles affrontent à 17h. Le match est déjà en cours. Leur homologue d'Angola, après 30 ans d'existence, cette compétition est devenue un tremplin pour des jeunes joueurs maliens pour se révéler au monde. Quatrième à la dernière CAN et médaillé de bronze au mondial de la catégorie, Ibrahim Djaradi Kaka, Sekou Kone, Mahmoud Bari évoluent respectivement au FC Barcelone, à Manchester United et Villarreal. Alors qu'est-ce qui explique l'intérêt de ces grandes écuries européennes pour les jeunes? Comment ces derniers doivent-ils se comporter pour une carrière réussie? Élément de réponse dans ce reportage de Khalifa Goïta.
Au Mali, depuis quelques années, des centres de formation voient le jour boostant la formation des jeunes à la base. Entraîneur du Yoluba AC, Demba Mamadou Traoré est convaincu que la qualité de la formation dans ses académies attise l'intérêt des clubs européens pour les jeunes joueurs.
Quand on regarde les 10 dernières années, les joueurs qui partent en Europe viennent principalement de nos centres pour la majorité. Moi, je pense que nos académies forment bien. Aujourd'hui, pour être en Europe, il faut non seulement avoir moins de 20 ans, mais aussi être de très très bons joueurs.
Ces propos sont soutenus par Moussa Ba, le journaliste sportif à Ségou, que de nombreux talents qu'a connu le football malien, dit-il.
Depuis la création du CSKA et dans les années 90, le Mali a eu des meilleurs joueurs mondiaux, tels que Seydou Keita, Djila, Rafa Sirbé, Djibril Sirbé. On a vu le cas de Jean-Marc Giroud, qui est venu en 2006. Nos jeunes-là sont convoités dans les grands clubs en Europe. C'est à travers une formation académique, professionnelle, avec des bases, parce que dans les centres de formation, il y a des données internationales qui sont là-bas.
Le football est devenu un véritable business aujourd'hui où la concurrence est rude. Il revient à chaque joueur de s'imposer, affirme Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Yoluba AC.
On a senti aussi depuis quelques temps que beaucoup de nos jeunes qui viennent en Europe sont très faibles mentalement. La concurrence étant très rude, beaucoup c'est très vite qu'il faut être très fort mentalement, accepter la concurrence.
Le journaliste sportif Moussa Ballo invite les jeunes joueurs à être ambitieux une fois recrutés par ces grandes écuries.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, les cheveux des nouveau-nés sont au cœur de diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Kouman Finkeita a rencontré des spécialistes. Découvrons son reportage.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yacouba Dougouni, sociologue, explique. Les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant, ce qui explique le mystère qui les entoure. Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux. C'est pour cette raison que les anciens insistent pour qu'il soit protégé des regards malveillants.
Vous savez, les cheveux, c'est des formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. Les gens qui rasent, ils regardent, la tête est rasée en fonction de ces lignes. Voilà, destinée à être riche et tout ça. Donc on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, les premiers cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveaux-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et leur équivalent en or est donné à nous-mêmes, selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. Et donc, on ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu qui sont les cheveux pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
Et nous retrouvons Mariam Maïga pour l'introduction du grand dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, de quoi va parler l'émission de ce soir?
Bonsoir Adama Amadou Haïdara. Dans l'émission de ce soir, nous allons parler de football. Le thème est « Le Mali en quête d'un troisième sacre à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans ». Et pour en parler, nos invités sont Fly Dembélé, entraîneur de football, Amadjar Traoré, journaliste sportif, Drissa Nyono, également journaliste sportif. Et cette émission se fera en langue nationale bamanankan.
Merci Mariam, très bon débat et bonne écoute également à nos auditeurs. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez toujours à l'écoute. Dans quelques instants, le magazine est juste après le Grand Dialogue. Engagement des femmes dans les associations, une aubaine pour la société. C'est le thème du magazine Toutes les femmes du Mali d'aujourd'hui, présenté par Khalifa Guetta.
Lorsque les femmes s'unissent, c'est tout le monde qui profite. C'est le propos de Djeneba Keïta, la présidente de l'association Benkadi au quartier Djalola de Maïna. Selon elle, malgré les défis, son groupement est devenu aujourd'hui un tremplin pour la promotion de nombreuses femmes.
Vers les années 90, nous avons commencé cette aventure. C'est une seule fois qu'on a bénéficié d'une formation sur comment faire la bouillie. Après, un particulier nous a offert des ustensiles pour bien faire notre travail. On cotise chaque dimanche 1000 francs. On garde 500 francs CFA comme fonds. Les autres 500 francs sont offerts comme tontine à l'intéressé du jour. Les membres peuvent prendre en crédit, mais à rembourser avec intérêt.
Kola est une localité dans la commune rurale de Karawana, dans le cercle de Mesoba. Ici, les femmes sont regroupées au sein d'une organisation dénommée Timinaja. La culture maraîchère demeure un atout pour ces femmes dans la cohésion. Korotumu Diabaté, responsable des femmes de Kola.
Nous sommes environ 100 femmes. Nous avons un jardin que World Vision nous a aidé à aménager. Grâce à ça, les femmes arrivent à satisfaire leurs besoins. Cela a créé une bonne attente entre les femmes et ce n'était pas le cas avant.
Pour les autorités municipales de Karawana, l'engagement de ces femmes contribue au développement économique et social de toute la commune. Mamadou Malé est le maire de la commune de Karawana.
L'activité des femmes permet de lutter contre la pauvreté. C'est grâce à cela que les femmes arrivent à donner l'argent du goûter aux élèves. Nous faisons notre possible pour les aider à trouver des partenaires.
À dire aussi, l'effort des femmes en association profite aux communes. Abdoulaye Sidi Cissé, deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Diré.
Si je prends le cas de la fabrication du savon, que ce soit le savon liquide ou le savon en morceaux, on constate que l'impact est visible dans les quartiers ou dans la ville. Par rapport à la transformation agroalimentaire, les femmes font des produits, on voit des femmes tailleurs, qui ont des ateliers qui marchent très bien là.
Des ONG assistent ces associations dans la coordination de leurs activités à travers des formations, des dons, entre autres. L'ONG Carrefour de développement, CARD, en est une à Massina, mais la transparence est la clé d'assurer un lendemain meilleur pour une association féminine, rassure Ismaël Bouakar Diallo de l'ONG CARD.
Ça dépend de l'aide, de ce que l'association demande. Il faut noter aussi que le manque de transparence dans la gestion des affaires de l'association sont entre autres des difficultés qu'on peut rencontrer. Il doit y avoir un fonctionnement démocratique.
Autre problème qui entrave l'émergence de ces groupements féminins, ce sont les rivalités féminines. C'est le constat fait par la CAFO nationale. Madame Célie Wan, membre du bureau exécutif de la CAFO.
Beaucoup pensent que les associations sont initiées uniquement pour avoir de l'argent. Finalement, les initiatrices pensent que l'association leur appartient. Le deuxième problème, les gens transportent des problèmes de co-épouse au sein de l'association. Ça dénaturalise l'objectif. Ça amène des petits conflits.
Notre interlocutrice avance que chaque membre doit connaître l'essence de l'association pour mieux jouer son rôle.
Quand tu viens dans l'association, c'est vraiment pour t'épanouir, apprendre, pour apporter des solutions. Les associations, les coopératives sont sont régis par des textes. Il faut que la personne qui adhère, même les initiatrices, cherchent à comprendre les textes pour savoir les droits et les devoirs.
Quoi qu'il en soit, les femmes interrogées estiment que les associations font avancer la réflexion globale et tout le monde y gagne.